La convention annuelle Anacofi au Clarouzel du Louvre sur Radio Patrimoine.
Et un nouvel invité au micro de Radio Patrimoine, c'est Pierre Sabatier. Bonjour Pierre.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup d'être là.
Merci
économiste, bien sûr, et président de l'OREP. Alors on aura deux casquettes au cours de cet entretien. La première, l'économiste, et puis en deuxième partie, le patron de l'OREP pour parler un peu de gestion de patrimoine. D'abord, c'est le regard de l'économiste sur cette folle nuit américaine, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Donald Trump qui nous a sorti une liste incroyable de taxes à venir, y compris je crois sur les îles McDonald's qui sont paumées à côté des Kerguelen où il n'y a que des pingouins je crois, mais qui vont devoir donc payer des taxes, tout le monde y passe. Qu'est-ce que ça nous dit?
Alors ça nous dit que déjà en fait en tant qu'Européens pour le coup en fait qu'il faut voir dans quel finalement monde nous sommes rentrés, mais en fait ça me fascine assez finalement d'imaginer que cette brutalité qui est effectivement issue en fait de la nuit qu'on vient de passer finalement constitue la suite logique de ce qui se passe depuis presque une dizaine d'années. Le monde a déjà changé sur le front du commerce international, aux États-Unis en particulier. Pourquoi ? Parce que déjà depuis le milieu des années 2010, tous les think tanks américains, qu'ils soient républicains ou démocrates d'ailleurs, et ça pour le coup l'Europe n'a pas voulu le voir, ont fixé en fait comme la question du commerce international, en ont fait en fait un sujet de sécurité nationale. C'est déjà le cas depuis en fait presque 10 ans. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, Donald Trump n'est pas nouveau au pouvoir puisque c'est son deuxième mandat. Et entre ces deux mandats, on a eu Joe Biden, donc avec un démocrate. Et est-ce que le démocrate a changé quoi que ce soit dans la question de la politique commerciale au niveau international des États-Unis? Absolument pas. Il a continué finalement l'exercice en fait d'entravement finalement orchestré au départ par Donald Trump, mais qu'il a poursuivi. Et donc là, en fait, on est dans l'étape 3, j'ai presque envie de dire, de cette remise en question fondamentale des règles du jeu qui ont été celles du commerce international depuis maintenant 25 ans, hein, celles de l'ouverture commerciale avec comme point d'orgue, on va dire, comme point de départ, on va dire plutôt, l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001. Et d'une certaine manière, bah, cette remise en question-là, en fait, elle est rentrée dans une seconde dimension, une troisième dimension avec les annonces, en fait, de cette nuit, en sachant aussi, et ça il faut se mettre à la place de l'Américain, je ne peux pas vous montrer la courbe du déficit commercial aux États-Unis qui effectivement reste extrêmement important. Et donc la question de fond, c'est in fine en fait, quand vous êtes un Américain, se dire qu'il faut trouver une solution pour résorber ce déficit commercial et éviter en fait de voir une partie de sa demande partir à l'extérieur, ça reste en fait un sujet à la fois de sécurité nationale, mais qui pourrait être légitime d'un point de vue
économique. Donc, pour reprendre les mots très forts de Donald Trump, oui, ça fait des décennies qu'on pille notre pays. Nous, ça nous offusque, entre guillemets, mais l'Américain, il se dit, bah, bien dit.
Ah, mais il l'entend, il l'entend. La question fondamentale, c'est est-ce que le chemin qu'il emploie pour résorber son déficit commercial est le bon.
Ouais.
En fait, c'est ça le vrai sujet.
Et la question qu'il faut se poser, c'est donc, quelles vont être les conséquences de tout ça? Mm-hmm. Et en clair aussi, quelles vont être les conséquences sur l'économie américaine?
Absolument.
Alors, la croissance américaine.
Alors, deux éléments de compréhension qui sont importants, en fait, à avoir en tête aujourd'hui. Pour le coup, nous sommes assez dubitatifs quant à l'impact positif que ces taxes douanières auront. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, premier élément, les États-Unis, c'est pas l'Europe, c'est pas la France, c'est pas l'Allemagne, c'est pas la Chine. En gros, les importations américaines, ça pèse lourd en valeur absolue, mais ça pèse pas lourd en termes relatifs. Ça pèse 15% de la richesse créée en fait aux États-Unis. Seulement, l'ensemble des importations. Chez nous, c'est une 30aine de %. En Allemagne, c'est une 40aine de %. En Chine, ça va être 35 à 40%. Donc, on est sur des ordres de grandeur qui sont relativement limités. En fait, tout cela aura assez peu d'impact selon nous. Pourquoi? Parce que le corollaire en fait de ces taxes douanières, c'est qu'a priori, ça devrait avoir un effet en fait d'appréciation de la monnaie, d'appréciation du dollar vis-à-vis des autres devises. Et donc, in fine, ce qu'on est en train de vous dire, en fait, ce qu'on est en train de se dire, c'est que ces taxes douanières qui visent à faire regagner en compétitivité les États-Unis vis-à-vis du reste du monde pourraient être totalement annulées si jamais le dollar monte. Parce qu'en gros, vous pouvez mettre des taxes douanières sur 15% de votre économie, 15% des exportations totales, mais si d'une certaine manière vous avez les taux de change et le dollar qui monte de 5% par rapport à toutes vos autres monnaies, tout ça est annulé du jour au lendemain. Et donc le vrai
opération
risque aujourd'hui,
zéro.
Finalement, l'opération est une opération zéro, selon nous, n'aura pas beaucoup de conséquences en termes d'inflation. Vous savez, ça, c'est un débat. En disant les taxes douanières vont avoir un impact majeur en fait, sur l'inflation aux États-Unis, sauf qu'en réalité, c'est ne pas comprendre quelles sont les ordres de grandeur. Les États-Unis sont une économie en fait qui est très auto-centrée, qui a très peu de relations avec l'extérieur, ce qui n'est pas du tout le cas d'Europe.
Mais les décisions de Trump ne s'arrêtent pas aux droits de douane. Il y a des décisions sur l'immigration, et ça peut avoir des questions sur les hausses de salaire.
Il y a deux ans, oui, mais aujourd'hui, non. Parce qu'en réalité, quand vous regardez le marché de l'emploi aux États-Unis, en fait, il n'est plus tendu. Et ça, je l'affirme pour le coup. Parce que qu'est-ce qui fait Alors, premier élément, déjà, en gros, les chiffres de l'emploi sont un indicateur très retardé de la dynamique réelle d'une économie. Toujours. Pourquoi ? Parce que quand, en fait, on est un entrepreneur, il faut qu'on ait plusieurs points déceptifs en termes de chiffre d'affaires pour finir par alléger sa masse salariale. À l'inverse, en fait, lorsqu'on est en début de cycle, eh bien, il faut qu'on ait plusieurs points positifs pour commencer à embaucher. C'est toujours un indicateur très retardé de la dynamique d'économie réelle. Premier élément. Deuxième élément, quand vous regardez, pour le coup, les chiffres les plus chauds en termes de traduction de la dynamique économique, là, regardez l'emploi intérimaire aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous dit qu'il y a 2 ans, oui, il y avait une tension sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, on est en croissance négative depuis maintenant de très longs trimestres sur l'emploi intérimaire. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas véritablement de surchauffe. Si ça avait été il y a 2 ans, oui, sur ces emplois les plus précaires, on aurait pu avoir, avec ces tentatives, entre guillemets, de reconduction à la frontière des emplois les plus précaires, évidemment.
Oui, bien sûr.
On aurait pu avoir une pression, en fait, sur l'inflation salariale. Aujourd'hui, on a d'énormes doutes sur le fait que ça puisse en avoir quelque impact que ce soit, en fait, sur l'inflation salariale aux US.
Donc, a priori, bon, la guerre commerciale, pas de gigantesque impact inflationniste. Le travail, pas trop. Tout ce qui est fiscal, parce que là, ça peut remettre aussi un peu d'huile ou d'essence dans la machine inflationniste.
Alors, pour l'instant, il faudra voir, en fait, de quoi on parle.
Ouais.
De quoi on parle ? Le gain marginal à la baisse de la fiscalité aux US, en fait, on est déjà tellement ras des pâquerettes qu'honnêtement, il y a relativement peu de chance.
Donc la croissance américaine est assez protégée ?
Mais elle est de fait assez protégée. En fait, nous, c'est une économie qui est très endogène. En fait, et ça, c'est un élément important à avoir en tête. Ça fait déjà 10 ans que le monde est passé, en fait, d'une ouverture commerciale, on va dire, au niveau mondial, à une forme de recontinentalisation des échanges. Et en fait, on est déjà, en fait, dans ce monde-là. Donc les États-Unis sont beaucoup plus autonomes que l'Europe, d'ailleurs, en fait, dans la manière même dont on crée la richesse créée. Donc il ne faut pas surestimer les conséquences que ça pourrait avoir. Et par ailleurs, j'ai presque envie de vous dire le ralentissement à venir aux États-Unis, parce qu'attention, ne vous me prenez pas dans ce que je dis. C'est-à-dire qu'il, c'est pas qu'il ne va pas y avoir de ralentissement économique aux États-Unis, mais pour nous, il est moins d'origine trumpienne que d'origine monétaire, parce que n'oublions pas que aux États-Unis, depuis 2 ans, nous avons une banque centrale américaine qui a appuyé des 2 pieds sur le frein, que pour le moment, le véhicule n'a pas voulu ralentir et qui commence à ralentir. Et c'est en fait ce probablement qui est devant nous, à savoir un ralentissement de l'économie américaine, qui est moins lié au pouvoir budgétaire qu'au pouvoir monétaire qui avait fait le choix de faire ralentir le véhicule pour faire rentrer les pressions inflationnistes dans le rang. On y est. Et donc là, le vrai sujet, en fait, c'est que en fait, l'enjeu il est moins dans les mains de Donald Trump, probablement, que la réserve fédérale à travers la politique monétaire qu'elle veut instaurer. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir, je le sais, Cédric, parce que vous êtes un observateur, on va dire, averti du sujet, que si les taux d'intérêt ne baissent pas trop aux États-Unis, ils ont commencé à baisser, mais ils se sont arrêtés, la politique de quantitative tightening, c'est-à-dire de resserrement quantitatif associé au fait que la réserve fédérale, pour le coup, devenait finalement à retirer des liquidités du marché de manière relativement importante jusqu'à maintenant, 25 milliards de dollars par mois, est passée à 5 milliards il y a 2 semaines. C'est-à-dire que d'ores et déjà, la réserve fédérale est en train de finalement arrêter d'appuyer des 2 pieds sur le frein pour remettre en fait du carburant dans l'économie. Donc attention, le pouvoir finalement, et qui est le plus grand pilote et le pilote le plus important dans une économie ? Est-ce le pouvoir monétaire ? Est-ce le pouvoir budgétaire ? Aujourd'hui, il ne faut pas sous-estimer le poids du monétaire.
Voilà donc pour la question américaine. Mais il y a des répliques ou des ondes sismiques qui viennent jusque chez nous et qui ont produit un effet. C'est une espèce d'électrochoc. Et notamment de l'autre côté du Rhin, où on s'est dit, on va redépenser, on va se réarmer, on revoit toutes les choses de fond en comble. Enfin bref, le paradigme change. Et j'ai sur le plateau, depuis des semaines, des stratégistes, des économistes, des analystes qui viennent me dire, tiens, des gérants, ça va avoir des impacts positifs sur les boîtes de ces secteurs-là, etc. Est-ce que l'Europe peut saisir, j'ai envie de dire, l'opportunité Trump ?
C'est une question compliquée et complexe, parce que l'Europe en soi est un phénomène complexe à part entière, dans le sens où l'Europe n'existe pas complètement. On a bien une monnaie commune, mais pas en fait un pouvoir législatif commun, en vérité. Et donc, en fait, c'est une somme, on est entre la fédération et la confédération. Donc, c'est très compliqué, en fait, la question que vous me posez. Maintenant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est quand même qu'il y a un game changer en Europe qui s'appelle, en fait, le basculement de l'Allemagne d'une politique dogmatique qui était, très honnêtement, totalement inadaptée. ou inadéquate. C'est-à-dire que là, la posture de pas du tout de déficit public en Allemagne, quand vous avez un pays qui vieillit à la vitesse en fait, du vieillissement de l'Allemagne, vous avez en fait des contraintes sur la demande externe, c'est-à-dire vos débouchés à l'export, continuer de faire perdre la rigueur alors même qu'il n'y a pas de dette publique, enfin, c'est un non-sens, c'est un contresens économique. Cette politique était trop... En fait, en gros, pro-ralentissement, ça n'avait pas de sens. Donc, d'une certaine manière, au-delà même du sujet sur lequel on investit, le fait de changer cette posture perd la rigueur totalement inadaptée au regard de ce qu'est devenu l'économie allemande est une bonne nouvelle pour l'économie européenne. On va dire qu'on a des politiques budgétaires qui vont revenir finalement de manière beaucoup plus proactive et beaucoup plus intéressante pour l'ensemble de l'économie allemande. Ça, c'est une bonne nouvelle pour la croissance européenne. Après, il y a la question en fait, des plans de relance. Et donc ça, c'est un autre sujet. Donc ça, c'est ce changement de posture est positif. Il était nécessaire pour éviter en fait...
Oui, mais jusqu'à présent, chaque fois qu'on parlait de plan de relance, malgré tout, on se heurtait à la porte d'Angela Merkel qui disait non, c'est...
Alors, et donc, il y a deux questions fondamentales lorsqu'on parle en fait patrimoine. On parle évidemment croissance, richesse créée, parce qu'en fait, ça va être la profitabilité des entreprises. Donc le fait en fait qu'on soit dans une posture de plus grand soutien budgétaire avec moins de rigueur budgétaire, clairement, c'est un soutien à la croissance européenne future. Donc on devrait, alors attention, c'est pas tout de suite, mais on va voir en fait des effets positifs associés en fait à ce volontarisme budgétaire d'ici la fin d'année et surtout plus probablement en fait l'année prochaine. Ça, c'est un élément positif. Mieux en termes de croissance que si on n'avait pas eu ce type de soutien. Maintenant, la vraie question qui se pose, c'est qui paye ? Et ça, c'est l'élément majeur à laquelle il va falloir avoir une réponse. Est-ce que ce sont... Parce qu'en fait, finalement, ce besoin, ces plans de relance-là vont générer finalement un déficit public, puisqu'on ne génère pas suffisamment de recettes fiscales pour faire face à cet excès de dépenses. Donc, ce déficit public va générer finalement un besoin de financement public de plus en plus important sur le marché. Et en fait, ce besoin de financement public sera-t-il financé par l'épargne naturellement générée par nos économies, par l'épargne privée finalement des Européens, ou sera-t-il financé par quelqu'un d'autre ? S'il est financé par l'épargne naturellement générée par les Européens, ça veut dire concrètement que les obligations souveraines qui seront émises pour financer ces plans de relance-là se feront au détriment de tous les autres actifs privés, qui peuvent être actions ou immobiliers. Parce que malheureusement, la taille du gâteau à se partager, qui s'appelle l'épargne naturellement générée, ne va pas augmenter suffisamment pour financer tous ces besoins. Donc est-ce qu'on a face à nous un effet siphon des besoins de financement public au détriment de tous les autres? C'est ce qui s'est passé au Japon de 1995 à 2012. Donc, si vous voulez avoir un exemple, je vous invite à aller voir en fait ce qui s'est passé entre-temps. Ou, nous sommes-nous le Japon depuis 2012, à savoir, est-ce que ce besoin de financement public est neutralisé par un acteur majeur dans une économie qui s'appelle la Banque Centrale Européenne? Et en fait, l'enjeu majeur à venir pour savoir comment évoluent finalement les marchés européens, donc vous avez compris, sur la profit de croissance européenne, elle sera soutenue par ce soutien budgétaire. La question, c'est sur les marchés, c'est-à-dire que les dynamiques en fait, de toutes les classes d'actifs. La réponse à cette question-là sera foncièrement différente si la Banque Centrale Européenne se dit et affiche le fait que je neutraliserai ce besoin de financement public, ce qui fait que l'épargne naturellement générée pourra se déverser sur les marchés actions, sur les marchés immobiliers, sur tous les autres actifs que les besoins de financement public, les obligations souveraines. Si ce n'est pas le cas, ça se fera au détriment des autres. Donc, deux profils foncièrement différents. Et pour l'instant, on n'a pas une banque centrale qui s'est dit « je neutraliserai ».
Puisque vous avez rappelé que outre-Atlantique, le pilote de la Fed était à peu près aussi important que celui qui occupait le bureau ovale, est-ce que c'est le cas aussi ? Est-ce que la Banque Centrale Européenne a plus de poids aujourd'hui, Christine Lagarde, que nos 27 peu ou prou réunis ?
La réponse est oui. D'où la problématique fondamentale d'avoir en fait délégué le pouvoir monétaire à un échelon dans lequel on n'a pas délégué le pouvoir budgétaire. De toute manière, ça ne pourra pas durer éternellement. Mais en l'occurrence, oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'à la fois à travers le prisme des taux d'intérêt, bien les taux d'intérêt, c'est le carburant qu'on offre à l'économie. C'est celui qui va vous permettre ou pas d'investir, de faire preuve de créativité. Donc vous comprenez bien, le fait de les fixer à 4 ou à 1, ce n'est pas la même histoire. Donc la puissance des niveaux de taux, c'est-à-dire que la mise à disposition en fait, de l'argent pour pouvoir investir est un élément proactif pour générer de la créativité ou pas. Et donc, naturellement, par le coup, la bonne nouvelle pour cette année qui vient, c'est que la Banque Centrale Européenne s'est déjà, en fait, orientée vers une baisse assumée de ses taux directeurs qui entraînera finalement une mise à disposition du carburant pour tous les Européens et donc qui pourront investir, en fait, à nouveau dans l'immobilier. Ça sera aussi vrai, en fait, pour les entreprises, quelle que soit leur taille. Donc ça, c'est un élément majeur. C'est la raison pour laquelle, en fait, c'est un pilote important. Et le deuxième, c'est que, à aujourd'hui, pour faire du soutien via la dépense publique, malheureusement, nous n'avons pas en fait des modèles, enfin des niveaux de croissance qui sont suffisants pour générer automatiquement des recettes fiscales qui permettraient de le financer. Si vous voulez vraiment le faire et que ça bénéficie à tout le monde, il faut que la Banque Centrale Européenne se mette en face. Deux armes pour la Banque Centrale, à la fois celle des taux d'intérêt, vous l'avez compris, c'est le carburant naturel et historique de l'économie, mais aussi en fait le fait de pouvoir faire de l'impression monétaire, descendre dans la cave, imprimer les billets de banque pour financer des projets d'investissement que collectivement on estime nécessaires. Qu'elle a su faire par le passé et sans avoir de boule de cristal. Si on veut faire ce qui a été dit, il est absolument inenvisageable que ce soit l'épargne privée qui paye. Sinon, pour le coup, autant les obligations souveraines se porteront bien, autant les marchés immobiliers qui commencent à voir les taux se desserrer autour de cette classe d'actifs-là souffriront, tout comme les actions.
Avant de parler avec la casquette OREP, un dernier mot de l'économiste Pierre Sabatier sur la Chine.
Oui.
Parce que si l'un s'agite dans son bureau ovale en taxant les pingouins, il y en a un autre qui s'agite dans sa cité interdite et qui nous explique...
Qui est de moins en moins interdite,
qui nous explique que tout va bien, qu'il va être hyper sympa avec tout le monde, qu'il va accueillir tout le monde, qu'il veut être win-win. Enfin bref, on a l'impression qu'il est en train de nous faire le portrait en négatif de Donald Trump. Je suis le pote de tout le monde. Est-ce que, d'abord, vous y croyez? Et est-ce que cette Chine peut...
Alors,
être finalement...
Une planche de salut.
Ouais, une planche de salut.
Alors, vous savez probablement que j'ai écrit un bouquin sur le sujet, hein, donc il y a une dizaine d'années, qui m'avait voulu faire l'honneur d'avoir un prix remis par le ministre des Finances de l'époque. Donc, c'est un sujet qui est absolument passionnant. Déjà, premier élément, ce que vous évoquez de Xi Jinping n'est que la continuité de ce qu'ont su faire les Chinois depuis 25 ans. Leur succès aussi vient d'une maîtrise de la communication vis-à-vis de l'extérieur absolument remarquable et d'un pilotage des autorités non moins remarquable. Et ça, il ne faut pas, attention, en fait, nier, ou en tout cas, ou sous-estimer l'efficacité des autorités en fait, chinoises quant à la qualité de leur pilotage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce une planche de salut à plus court terme? Dans une économie, vous avez compris, il y a deux pilotes, le pilote budgétaire, le pilote monétaire. Il y a une seule zone du monde dans laquelle vous avez les deux pilotes qui sont alignés, c'est la Chine.
C'est la Chine.
Et donc à aujourd'hui, si jusqu'à maintenant, en fait, ça a été relativement compliqué, quand vous avez les deux pilotes qui disent la même chose, et en particulier en Chine, vous savez en fait que, grosso modo, en fait, l'avenir va s'orienter tel qu'ils l'ont choisi. Donc c'est une zone, effectivement, du monde qu'il faut considérer à juste titre d'un point de vue d'investissement, à savoir que c'est celle qui devrait pour le coup probablement le mieux se comporter dans les trimestres à venir pour des questions d'alignement, pouvoir monétaire, pouvoir budgétaire. Maintenant, est-ce une planche de salut au niveau mondial? Ça reste extrêmement... Enfin, je reste dubitatif par rapport au sujet parce que si la qualité du pilotage chinois est absolument remarquable d'un point de vue budgétaire et monétaire, je ne fais pas de morale ni de politique, mais il faut, en tant qu'observateur avisé depuis une vingtaine d'années sur le sujet, c'est une évidence. Il faut aussi avoir conscience des deux grands défis qui restent devant en fait, les pouvoirs chinois. Un conjoncturel, qui est l'héritage de la décennie passée, à savoir une crise du bilan, en fait, une vraie bulle bilancielle. Bien sûr. Trop de passifs pour trop d'actifs, à savoir des capacités de production qui sont trop importantes pour être en fait, on va dire, consommées ou amorties par son marché interne. Donc ça, c'est en cours de résorption. Ça fait en réalité 5 ans que le pouvoir chinois a décidé, chaque fois qu'il y a une entreprise qui ouvre le placard et le cadavre tombe, de régler le problème. Elle le fait avec, je dirais, obstination, persévérance, et elle arrive à le faire. Mais ça met du temps, donc c'est quand même contraint, parce que vous êtes face à un outil de production surnuméraire par rapport à ce qu'elle peut encaisser. Et deuxième élément qui probablement sera beaucoup plus sérieux, c'est le vieillissement en fait, de la population chinoise, dont les gens n'ont pas vraiment conscience, parce que les Chinois ont fait leur transition démographique à la chinoise, c'est-à-dire de manière administrative, du jour au lendemain, avec la politique de l'infinique en 79. Et ça a comme conséquence extrêmement lourde d'avoir d'ici 2030 à 2035 autant de Chinois de plus de 65 ans que d'Européens sur la planète sans avoir rien provisionné pour le supporter.
Et ils ont changé la donne, ça...
Mais oui, mais sauf que là, c'est flux versus le stock. Ouais, là, vous avez un stock à porter et rien n'est provisionné pour cela. Ça veut dire concrètement qu'à court terme, il est clair que la zone Asie se comportera bien parce qu'elle a organisé en fait cela. À plus long terme,
il reste des questions.
A des enjeux qui sont lourds et pour lesquels il est difficile d'imaginer que la Chine soit une planche de salut pour l'ensemble du monde.
Allez, on change juste de casquette. On est un peu pris par le temps, donc on aura moins de temps sur la partie patrimoniale. Voilà, au sein de cette Anacofi, de cette convention qu'on suit sur Radio Patrimoine, quelles sont un peu pour vous les grandes questions? Quelle est un peu l'ambiance? Enfin voilà, vous avez notamment participé à une table ronde où il y a eu pas mal de questions.
Oui.
Voilà, quel est un peu le résumé que Pierre Sabatier nous propose?
Alors, le résumé, il est relativement simple. C'est que, pour le coup, le client final est soumis à une forme d'anxiété héritée de l'environnement dans lequel on vit, qui ne cesse d'augmenter depuis une dizaine d'années. Et vous savez, le pire, en fait, de l'anxiété, c'est quand on ne comprend pas, on ne fait plus rien. En fait, on devient immobile. Et ça, c'est un danger et contre lequel le CGP doit lutter. En fait, cette tendance au client final de ne rien faire parce qu'il est un peu aveuglé par les phares de la voiture, je donne l'image souvent de la biche, voilà, au milieu de la route, qui est aveuglé par les phares de la voiture en pleine nuit et qui se fait percuter, eh bien, c'est ce contre quoi il faut lutter. Parce que vous savez, en physique, l'absence de mouvement, c'est littéralement la mort. Et la vie se définit par le mouvement. Et donc, c'est le vrai sujet, en fait, du CGP aujourd'hui. C'est comment lui-même arrive-t-il à rester le tiers de confiance vis-à-vis de son client pour lui faire comprendre, finalement, ou pour assumer la charge mentale de l'anxiété générée par l'ensemble de ces remises en question des règles du jeu au niveau international, en lui disant voilà l'essentiel, voilà l'accessoire, voilà ce qui peut concerner ou ce qui va vous concerner, et voilà du coup les préconisations qu'on peut faire en termes de gestion de patrimoine. Et donc, cette capacité, finalement, à ne pas altérer la confiance qui lie le CGP de son client va reposer quant à sa capacité à comprendre le monde dans lequel on vit et surtout savoir ce qui concerne son client final de ce qui ne le concerne pas. Et j'ai presque envie de dire de faire ce rôle de paravent, hein, de paravent à travers toute l'anxiété que le client final subit qui pourrait le pousser à ne rien faire. Ça serait la pire des solutions.
Je l'appelais avant le médecin de famille, il va falloir rajouter le psychologue de famille.
Le psychologue de famille et en même temps que l'architecte du patrimoine qui définit les fondations, choisit en fait les artisans qui vont monter la maison et choisit aussi les matériaux qui vont lui permettre de répondre finalement aux besoins clairement exprimés par le client.
Merci Pierre. Pierre Merci Sabatier, donc économiste et patron de l'OREP sur Radio Patrimoine à l'occasion de cette journée de l'Anacofi. À très bientôt Pierre.
À bientôt.
La convention annuelle Anacofi au Carrousel du Louvre sur Radio Patrimoine.